Voilà, très heureux d'être avec vous, de vivre ces moments depuis le début du culte, même avant le culte, c'est formidable. Et on continue dans la présence de Dieu, à s'approcher de lui, à être à son écoute maintenant, parce que le Seigneur veut nous parler ce matin. Vous vous souvenez de ce que j'avais prêché il y a 15 jours? J'ai même renvoyé un rappel par mail. Vous vous souvenez, c'était quoi le titre? Allô? Au plus près de Dieu. Ah, il n'y en a pas beaucoup qui se rappellent. Hein. Comme quoi, on a besoin de... Et je vous encourage à le faire. Hein. On a la chance aujourd'hui, on n'a plus besoin d'enregistrer des cassettes, machin, etc. Vous allez sur le site internet et vous avez la prédication que vous pouvez réécouter. Vous pouvez même la télécharger en podcast pour l'écouter sur votre téléphone pendant que vous roulez en voiture, etc. C'est vrai qu'on a beaucoup de temps, mais utilisez les temps comme ça et réécoutez parce qu'on a besoin. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la méditation. Le Seigneur nous dit « Méditez ma parole jour et nuit ». Et là, quand vous lisez ça, vous dites « Seigneur, c'est quand que je dors ? C'est quand que je vais au travail ?» Mais en fait, méditer, ça veut dire repasser constamment. C'est l'image de la vache qui rumine. Littéralement, c'est ça le terme. Elle repasse les aliments, elle repasse avant de les engloutir définitivement. Et on a besoin, ce n'est pas une prédication qu'on a entendue comme ça. Et hop, on passe à autre chose. Et en fait, je parle pour moi, on a entendu des milliers de prédications et il y a tellement de choses qui se sont envolées. Et c'est dommage parce que c'est Dieu qui parle. Et je vous encourage à le faire. Je continue sur ce thème, au plus près de Dieu, épisode 2. Juste rappeler le texte qu'on avait lu la dernière fois. Hébreux 10, 19, 20, juste le début du verset, on avait lu un peu plus complet. Mais ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et ensuite, nous sommes encouragés, puisque nous avons cette libre entrée, eh bien, à nous approcher de Dieu, d'être au plus près de lui. Je vous rappelle les différents lieux qu'il y avait dans le tabernacle et tous ces lieux, trois lieux essentiellement, qu'on trouve le grand rectangle qu'il y a avec les autres rectangles à l'intérieur, ça s'appelle le parvis. Et puis ensuite, vous avez le rectangle, le petit rectangle au milieu, où il y a deux endroits, le lieu saint et le lieu très saint. Hein, et on avait, je ne vais pas refaire ce que j'avais dit la dernière fois, mais on avait vu qu'il y avait tout un parcours à faire. Et quand on avait fini le parcours, on ne pouvait même pas rentrer au bout dans le lieu très saint. Et aujourd'hui, par la mort de Jésus-Christ à la croix, on va le voir, nous avons accès au lieu très saint. Je disais que maintenant, aujourd'hui, dans le temple, si on devait dessiner le temple, on ne mettrait que le lieu très saint. C'est là qu'on va directement. Parce que Jésus, en nous souvenant, bien sûr, le prix qui a été payé pour ça. On a désormais accès à l'intimité de Dieu, mes frères et sœurs. Le Père, dans sa gloire toute puissante, nous pouvons aller auprès de lui. Quelle différence avec l'image qu'on nous met dans la tête hein, d'un Dieu inaccessible. Et si jamais on y accède, on s'en prend une, hein, parce qu'on est des mauvais bougres. Et en fait, c'est tout autre chose le plan de Dieu. Dieu, il veut être en relation avec nous, mais depuis la création. Et s'il a envoyé Jésus, c'est pour rétablir cette relation. On va voir au travers de plusieurs messages les bienfaits que l'on retire quand on vient auprès de Dieu. Il y a tellement de grâces et de bienfaits à venir auprès de Dieu. Et souvent, on n'en est pas conscient. C'est pour ça que le Seigneur m'a mis à cœur de partager tout ça avec vous. On va partir sur un texte que vous connaissez, ceux qui ont l'habitude de lire la Bible. Il se trouve dans la deuxième épître, j'ai marqué un. Alors vous rectifierez, je pense sur les diapos, il y aura un aussi. Mais c'est 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Non, sur les diapos, c'est bon. Alors, ça va. Et nous lisons ceci. Je vais lire d'abord dans la version seconde, Ensuite, on va lire dans la version Le Semeur. Et puis ensuite, on lira la transcription Parole vivante. D'accord ? Vous êtes prêts ? On y va. D'abord, la version Second. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Je lis maintenant la version Le Semeur qui va différer sur la fin du verset. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'état ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Amen. Et on va être encore plus complet en lisant Parole vivante. Parole vivante, ce n'est pas une traduction, c'est une transcription. La différence entre une traduction et une transcription, la traduction, elle reprend le texte mot à mot en traduisant le grec ou l'hébreu. La transcription, elle élargit la traduction avec des explications en enrobant le texte pour qu'on comprenne encore plus la profondeur de ce qui est écrit par rapport au texte originel. Parce que traduire un mot grec ou un mot hébreu, ce n'est pas évident. Et c'est Alfred Kuhn qui a fait cette transcription, qui s'appelle Parole vivante. Or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle, pour lui ressembler davantage de jour en jour. Et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient la nôtre. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Amen. Amen. On va partir de cette transcription et voir quatre points ensemble. La première chose qui est notée dans cette transcription, et qui est ajouté aux autres traductions où il est simplement précisé qu'on s'approche le visage découvert, là il est rajouté sans voile. Dans Matthieu chapitre 27 et versets 50-51, voici ce qu'il est dit au moment de la croix, au moment où Jésus est crucifié, au moment où il expire sur la croix, où il prononce ses dernières paroles. Il est dit ceci: Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Amen. Le voile a été ôté. Le voile a été enlevé. Ce voile qui empêchait le peuple d'Israël d'entrer dans le lieu très saint, où il y avait le propitiatoire, la présence de Dieu, et on ne pouvait pas y rentrer. Si on y rentrait, on mourrait tout de suite. Parce que la puissance de Dieu, c'est trop fort pour un être humain. Et on ne peut pas vivre, voir Dieu et vivre. Ce n'était pas possible. Or, aujourd'hui, parce que Jésus a donné sa vie sur la croix, nous voyons la conséquence immédiate. Immédiate. Au moment donné où il meurt, où sa vie est offerte, le voile est déchiré. Ce qui veut dire que maintenant, j'ai, conformément au verset qu'on a lu en introduction, un libre accès dans le sanctuaire. Amen. Merci Seigneur pour la croix. Vous savez, la croix, on y pense pour le salut qu'elle nous offre. Et on a raison. Tout part de là. Mais on n'y pense pas assez pour se dire la croix m'a ouvert une relation d'intimité avec Dieu. Sans aucun obstacle, mes frères et sœurs, il n'y a plus d'obstacle. Même ton péché n'est plus un obstacle. Pourquoi ? Parce que tu le portes au Seigneur et Jésus-Christ pardonne ton péché. Et quand Jésus-Christ pardonne, contrairement à nous, on pardonne, mais le cerveau ne peut pas effacer. Jésus-Christ efface. Et si ton péché est effacé, tu peux te présenter devant Dieu. Parce que lui, il te regarde, tu es sans défaut, tu es pur. C'est incroyable, non? Je sais pas, mais moi, ça me rend dingue, ça. Je me dis, mais Dieu, pourquoi tu fais ça pour nous? On ne mérite pas. Mais Dieu l'a fait par amour. Amen. Dieu est grand. Dieu est grand premièrement dans son amour. Et on l'a vu la dernière fois, pour reprendre l'image du temple, mes frères et sœurs, ne restons pas sur le parvis. Ne restons pas à l'extérieur en disant, ça, c'est pas accessible pour moi. C'est pour ceux qui sont spirituels. C'est pour ceux qui ne font pas de péché, qui sont bien. Non. La présence de Dieu t'est ouverte par le sacrifice de Jésus à la croix. Ne te contente pas non plus du lieu saint, de venir à l'église, de remplir tes devoirs de chrétien, lire ta Bible, prier. Va plus loin. Va dans le lieu très saint. Viens au plus près de Dieu. Amen. Et alors, quand tu es au plus près de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? C'est intéressant. Qu'est-ce qui nous est dit dans le texte d'un Corinthien, de 2 Corinthiens 3, 18? Nous sommes invités, lorsque nous venons au pied, au plus près du Seigneur, à quoi faire? Comment? Non, non, tu vas trop vite. Le contempler. Waouh! Ah! Ah mince. Ah. Non mais moi, pasteur, quand je viens au plus près de Dieu, j'ai toute ma liste. Ah enfin, je peux parler à Dieu. On m'a dit que je pouvais aller voir Dieu. Wouh ! Seigneur, j'ai besoin de ça, 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 ça. Il y en a qui sont plus spirituels. Ils ne demandent pas. Ils ne demandent pas des choses charnel, terrestre. Il demande des choses spirituelles. Seigneur, j'ai besoin que tu me transformes. J'ai besoin que tu me changes. Et c'est tout. Seigneur, fais le boulot. Fais le boulot, toi. Comme ça, moi, je n'aurais pas à le faire. Il y a un psaume qui m'a toujours bouleversé d'une manière intensément profonde. C'est le psaume 27,4. J'aimerais qu'on le lise ensemble et que vous pesiez chaque parole de ce psaume, de ce verset. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Contemplation, admiration devant Dieu. Oui, moi devant vous tous, je demande pardon à Dieu. Parce que quand je viens devant lui, c'est rarement pour juste le contempler. Juste l'admirer. Me laisser imprégner de sa présence. Mes frères et sœurs, nous avons besoin d'avancer. Et la parole de Dieu nous dit, quand tu viens au plus près de Dieu, contemple-le. Contemple-le. Arrête avec ta liste de besoins. Arrête avec tes revendications. Contemple. Ah, oh, c'est dur, Seigneur, c'est dur, j'y arrive pas. J'ai plein de pensées là qui... J'y arrive pas. Mais faites-en un combat et un sujet de prière. Comme vous savez le faire pour des besoins matériels. Vous ne vous lâchez pas l'affaire avec Dieu. Dites, Seigneur, donne-moi cette capacité par le Saint-Esprit d'être capable de te contempler. De passer du temps juste à te contempler, Seigneur. Dans ce psaume, il faut voir le contexte dans lequel David dit cela. Il parle, si vous lisez les versets 1 à 3, on ne va pas les lire maintenant parce que ce serait trop long, mais il parle des méchants qui s'avancent contre lui, qui veulent dévorer sa chair. De ses persécuteurs, de ses ennemis. Il est en souffrance parce que d'autres mettent sa vie à mal. Et lui, il vient devant Dieu et dit, moi, ce qui me plaît, Seigneur, c'est de venir devant toi et te contempler. Gloire à Dieu. C'est pas, Seigneur, anéantis mes ennemis là, tout de suite, s'il te plaît. Non, Seigneur, il vient contempler. Et il poursuit dans le verset 5, il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Amen. Au milieu de ton épreuve, viens et contemple Dieu. Viens contempler Dieu, sa grandeur, sa majesté. Oui, on doit confesser tous qu'on a du mal à venir auprès de Dieu uniquement pour le contempler. Le contempler, ça veut dire se taire, rester silencieux. On a du mal, hein, surtout nous, les pampans, les pentecôtistes. Il y a un moment pour tout, hein, je ne suis pas en train de dire qu'on doit toujours être silencieux. Hein. Mais nous avons besoin de goûter à ces moments-là. La contemplation, ça signifie la réflexion. La réflexion au sens où je me reflète. D'accord ? Pas la réflexion où je cogite. La réflexion. C'est ce que Paul nous parle de cela. Il nous donne l'image d'un miroir. Quand je suis en face à face avec le Seigneur, j'ai les yeux ouverts, je le contemple. Je ne suis pas là. J'ouvre les yeux. Alors, vous pouvez avoir les yeux fermés et les yeux ouverts sur la gloire de Dieu. Hein. C'est pas... Ayons les yeux ouverts sur sa gloire afin qu'elle nous illumine, qu'elle reflète sur nous. En fait, c'est ça. C'est ça, la grâce du lieu très saint. C'est un halo de lumière, c'est un endroit incroyablement lumineux. Dieu est la lumière. Et nous arrivons là-dedans et on est éclairés. Est-ce que la lumière se reflète sur nous, mes frères et sœurs ? Est-ce que la lumière de Dieu se reflète sur nous ? Dans le livre de l'Exode, il est parlé de Moïse, qui est redescendu de la montagne du Sinaï, avec les tables du témoignage dans sa main, et il est descendu de la montagne. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron, tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnait. Ça ne vous fait pas envie, ça ? Mais je vous annonce une chose, c'est que franchement, on devrait avoir honte d'avoir envie de ça. Parce que vous savez ce qu'il est dit sur ce rayonnement de Moïse ? Que c'était passager. Alors que nous, dans l'alliance de la grâce, sommes appelés à rayonner non pas d'une manière passagère, mais d'une manière constante. Amen. Amen. Mais vous vous rendez compte ? Eh ! On est en train de dire que on peut être mieux que Moïse. J'ai mis une image, celle de la lune. Vous avez vu comment elle brille, la lune ? Qui peut me dire pourquoi la lune elle brille comme ça ? Pourquoi elle envoie de la lumière, une lumière comme ça en pleine nuit ? D'où ça vient ? C'est bien, vous avez bien travaillé quand vous étiez sur les bancs de l'école. Oui, il n'y a aucune lumière dans la lune. En elle-même, il y a zéro lumière. Et pourtant, elle brille. Parce qu'elle est face au soleil. Mes frères et sœurs, si nous avons des face à face avec Dieu, qu'est la lumière, une lumière bien puissante, bien plus puissante que le soleil encore. Est-ce que nous allons pas briller nous aussi, alors que pourtant à la base il n'y a pas de lumière en nous. Pourtant je m'appelle Luc, hein. Ça signifie lumière. Mais je confesse que mes parents se sont trompés. Il n'y a aucune lumière en moi, aucune lumière. Mais grâce à Dieu, des fois les gens voient une lumière quand ils me regardent. Et cette lumière qu'il voit, c'est celle de Christ. Amen. Et il en est de même pour chacun de nous. Quand nous nous approchons du Seigneur, alors nous pouvons croire que sa lumière resplendit sur nous. Le psaume 34,6 nous dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Amen. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quelle grâce. Troisième chose qu'on voit, c'est que nous sommes appelés à être transformés en son image. Je viens de le dire en quelque sorte avec cette image de la lumière qui resplendit. Mais en fait, ce face-à-face avec Dieu, c'est ce qui vient nous transformer en profondeur, puisqu'on est appelé à lui ressembler. Donc si je pars de la base, moi, Luc, comme ça, sans Dieu et tout ça, à côté de Jésus, est-ce qu'il y a une ressemblance ? Zéro. Aucune ressemblance. Et pourtant, grâce à la croix et cette possibilité de venir en contemplation devant Dieu, il y a une possibilité que petit à petit, on commence à dire, tiens, il y a des choses qui ressemblent à Jésus-Christ. Alors je me suis pris en exemple, mais je peux prendre en exemple chacun de ceux qui suit le Seigneur et qui veut suivre le Seigneur. Et on est appelé, l'apôtre Paul nous dit aussi dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, on a travaillé ce texte avec les ados hier, si quelqu'un est en Christ, il est appelé à être une nouvelle créature. Il doit y avoir un changement. J'ai montré aux ados deux bouteilles, une bière sans alcool et une bière avec alcool. Et je leur ai dit, laquelle sans alcool ? Bon, il y en a une qui a été maligne, elle a vu qu'il y avait 0% sur une des deux bouteilles. Elle a pu dire, c'est celle-là. Mais si vous n'avez pas d'étiquette, vous êtes incapable de savoir. Et en fait, je leur ai expliqué qu'entre nous et les gens du monde, il peut y avoir aucune différence. Et c'est regrettable, non ? Parce qu'on est censé être des nouvelles créatures. On est censé être des nouvelles créatures. Et il faut... Alors, on ne veut pas se différencier pour se montrer supérieur ou les dénigrer, dire « il y a nous et eux ». Ce n'est pas ça du tout. C'est que dans le monde où on vit, si on est rempli de l'esprit de la présence de Dieu, c'est obligé qu'on se démarque. Tellement le monde, vous le voyez, est en train de tomber dans les ténèbres, dans des choses mauvaises. Il s'enfonce dans le péché, dans les choses, toutes les choses que Dieu a recommandé de ne pas faire. On dirait qu'aujourd'hui, on se fait un malin plaisir de dire, de les faire, mais ça a toujours été. Mais maintenant, on dit que c'est bien de le faire. Et si vraiment tu es rempli du Seigneur, c'est obligé qu'on voit une différence. C'est obligé. Tu es une nouvelle créature en Christ. Amen. Et là, on est dans la continuité de ce qu'on vient de voir avec cette histoire de lumière qui reflète sur nous. Ça entraîne littéralement le mot, c'est une métamorphose. C'est le grec métamorpho. Il fait référence, vous savez, à la chrysalide. La chenille qui devient papillon. C'est pas extraordinaire, ça ? La nature nous enseigne. La vilaine petite chenille devient un magnifique papillon. C'est notre destinée. Nous sommes appelés à nous métamorphoser. Le terme métamorpho, il est employé, c'est le même terme qui est employé quand Matthieu et Marc nous parlent de la transfiguration. La transfiguration, il s'agit de qui dans la transfiguration ? De Jésus ? On est appelé à vivre une transfiguration. Ouais, le niveau est élevé. Hein. Mais moi, je suis chrétien pour ça. Hein. Je veux aller vers les sommets que Dieu me propose. Pas pour me croire supérieur aux autres, mais pour que ma vie évolue, pour que je sois en symbiose avec mon Créateur. Il est question d'être transformé de gloire en gloire. Ou, comme le dit la version Le Semeur, en une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Yao. J'ai fait yao parce qu'il y a le... et le yes. En fait, nous voulons souvent que Dieu transforme nos situations. Mais nous oublions de lui demander de nous transformer à nous. Je répète. Nous voulons que Dieu change nos situations, mais on devrait lui demander de nous changer à nous. Amen. C'est dur de faire ça. Nous, on aimerait que Seigneur change les autres, change les situations. Et en fait, le diable est malin parce qu'il nous amène sur ces terrains-là et pendant ce temps, on oublie l'essentiel, c'est de lui demander de nous transformer à nous. Et même quand tu serais victime des pires injustices, demande au Seigneur de te transformer pour être capable d'affronter ça et de lui faire confiance. La Bible dit que c'est Dieu ma justice. Je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie. J'ai refusé de me battre pour prouver que c'est moi qui avais raison ou que c'était injuste ce que je vivais. Et à chaque fois, c'est Dieu qui m'a fait justice. Et je le bénis pour ça. Pendant ces situations, je le remerciais parce qu'il était en train de me transformer. Parce que des fois, des situations difficiles nous amènent à contempler Dieu un peu plus que d'habitude. Non ? Pas vous. Le but ultime, c'est qu'un jour, nous serons comme Christ. Oh là là ! T'as bien fait de leur dire, Benjamin, il a bien fait de vous dire qu'il fallait se réveiller. Hein. 1 Jean chapitre 3, verset 2, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Le problème aujourd'hui, c'est que quand nous nous approchons de Dieu, nous nous approchons, alors c'est bien déjà, si nous le contemplons, c'est bien, mais on le contemple avec nos représentations à nous. On est limité, c'est obligé, il ne faut pas culpabiliser pour ça. On le contemple avec nos représentations et on est loin du compte. Mais quand on va le voir tel qu'il est, soit le jour où vous allez finir ce voyage ici-bas et passer de l'autre côté, ou soit le jour où le Seigneur viendra enlever l'Église, on va être face à face avec lui et là on va le voir tel qu'il est. Et bien rien que ça va faire qu'on va être semblable à lui. C'est incroyable. Ce qui m'encourage fortement à vouloir le contempler, même si je sais que ici-bas, je ne vais jamais être semblable à lui, mais je veux que l'éclat de ma gloire que Dieu me transmet aille en grandissant. Amen. J'aime bien la transcription d'Alfred Kuhn, où il est dit « Sa gloire devient la nôtre ». Ça ne vous a pas touché cette phrase ? Moi, ça me touche. J'aurais pu vous lire, mais c'est assez long, mais la prière de Jésus dans Jean chapitre 17, où il dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Eh, faut qu'on vive dans la foi, les frères et sœurs. Ça, c'est Jésus qui le dit, c'est pas lui qui est en train de faire une prédication, qui a essayé de trouver un moyen de nous expliquer. Non, non, c'est des paroles concrètes de Jésus. Il nous donne la gloire que son Père lui a donnée. Amen. Je conclue et je termine avec le quatrième point qui fera en même temps la conclusion. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Je reprends ce que dit là aussi Alfred Kuhn dans la version Parole vivante. Écoutez bien. Moi, ça m'a percuté. D'entrée, quand j'ai lu ça, j'ai fait « Ah oui ». Il dit « Il ne saurait en être autrement ». Donc en fait, c'est pas cette dimension de la vie chrétienne, ce n'est pas une option. Il ne saurait en être autrement. Je suis appelé à voir ce soupir de David, le même en disant « Je veux habiter tout le temps dans la maison de l'Éternel pour contempler sa gloire ». Alléluia. Est-ce que c'est ta prière, mon frère, ma sœur ? C'est notre prière, mais reconnaissons que le mettre en pratique, c'est compliqué. C'est compliqué à tous les niveaux. Vous avez des enfants dans la maison qui font du bruit. C'est compliqué de vivre ça. Mais quand on veut quelque chose, quand on veut vraiment quelque chose, mes frères et sœurs, On le fait. On trouve le moyen de le faire. Oui ou non? Quand on veut vraiment quelque chose, on va trouver le moyen de le faire. Et si on veut vraiment ces temps d'intimité avec le Seigneur, on va prendre des dispositions pour que ça se fasse. Il ne saurait en être autrement, mes frères et sœurs. Quand tu t'approches du Seigneur, oui, tu peux partager tes fardeaux. Tu peux lui faire part de tes rêves, de tes désirs. Il n'y a pas de souci, ça n'enlève pas ça. Mais n'oublie pas qu'il doit y avoir des moments aussi où tu es là juste pour le contempler. Comme un amoureux qui s'assoit sur un banc à côté de sa destinée et il la regarde, et le fait de la regarder, ça lui suffit. Il n'y a pas besoin de parler. Le fait de la regarder, de voir sa beauté, il est transfiguré. Et si c'est possible quand on est amoureux, j'aimerais vous dire que c'est surmultiplié quand ça se passe avec la beauté du Seigneur. Amen. C'est important ce que nous disons car je crois que c'est là et seulement là que le Saint-Esprit peut réellement faire son œuvre de transformation en nous. La transformation n'a pas lieu par les efforts que nous faisons. La transformation ne sera pas le résultat de notre volonté, des décisions qu'on aura prises, sauf une seule décision, celle de prendre du temps pour contempler le Seigneur. J'ai échangé avec les futurs baptisés vendredi soir et je leur ai expliqué mon parcours où le diable m'a piégé pendant des années à vouloir être meilleur par mes résolutions, mes propres efforts. Et j'ai perdu un temps fou. Pourtant, j'étais sincère. Jésus dit, l'esprit est bien disposé. Mon esprit était bien disposé, mais ma chair, elle est faible. Donc j'avais beau le vouloir de tout mon cœur, j'avais beau me taper la tête contre les murs et mettre des coups de poing sur la table en me disant, mais comment t'as pu faire ça? Tu avais promis au Seigneur de ne pas le faire, de plus le faire. Un combat comme ça qui s'est installé, pour rien. Parce que le résultat, ça a été zéro. Luc, il est resté le même. Bon, il y avait quelques petites améliorations. Et le jour où j'ai décidé de réviser mon emploi du temps, je n'étais pas pasteur à l'époque, et de passer du temps dans la communion avec le Seigneur, alors la transformation a commencé à s'opérer. Amen. Et là, c'est, vous en rendez même pas compte. C'est les gens autour qui vous disent « Eh, t'as changé, toi. » Votre épouse qui vous le dit. Et puis les gens autour. Et puis vous entendez des choses qu'on dit sur vous que vous n'imaginiez pas qu'on puisse dire un jour sur vous. Franchement, je suis pas là en train de vouloir me glorifier de quoi que ce soit, parce que justement, ce que je vous explique, c'est que tout ce que vous pouvez voir de bon en moi ou dans une personne qui suit le Seigneur, ça vient de Christ. Ça ne vient que de Christ. Et moi, je veux le confesser à chaque fois qu'on me fait un compliment, qu'on me dit quelque chose, je reprends les gens, je leur dis, ce que vous voyez, c'est Christ qui vit en moi. Parce que si vous m'aviez connu quand j'étais adolescent et plus jeune, vous ne pourriez pas dire ça de moi. Le diable, il est malin pour nous donner des os à ronger. Et croire qu'on est dans le bon chemin, qu'on est en train de faire ce qu'il faut pour le Seigneur. Mais en fait, il y a une seule chose, on le verra la prochaine fois, avec l'exemple de Marie qui se tient au pied de Jésus. Il n'y a qu'une seule chose qui est nécessaire. C'est le face-à-face avec lui. Amen. La transformation a lieu par la contemplation. C'est la contemplation qui nous amène à être métamorphosés. Je vais même aller plus loin. C'est là le véritable baptême du Saint-Esprit. Je ne veux pas vous choquer en disant ça. Mais on est friand des réunions où il y a une visitation et puis on se met à être visité du Saint-Esprit et tout ça. Et je suis pour ces réunions. Je ne les dénigre pas du tout. Mais si je veux, ça, c'est Moïse. Ça, c'est Moïse. On repart et ça va durer un temps, le rayonnement. Mais si vous avez juste vécu une super réunion où il y avait l'onction du Saint-Esprit et qu'après vous ne faites rien de votre vie spirituelle, vous ne reflèterez pas la lumière de Christ et vous ne serez pas dans un processus de transformation profond. On est d'accord avec ça ? Le baptême, littéralement, on le voit aussi avec les néophytes, ça signifie immerger. Donc immerger dans la présence de Dieu par le Saint-Esprit, enveloppé, comme l'a dit Nathanaël, on est enveloppé de sa présence, c'est ça le baptême. Et moi, je ne veux pas être enveloppé de sa présence juste pendant une réunion. Et si c'est possible pendant une réunion, je le fais, il n'y a pas de souci. Mais je veux que ce soit quotidien. Or, malheureusement, on n'a pas la possibilité de vivre des grands rassemblements de jeunes ou autres au quotidien. On est d'accord ? Ça serait compliqué. Hein ? On aimerait bien. Ça serait génial. On le vit pendant les colos, tous les jours, des moments super forts avec le Seigneur tous ensemble. Mais dans la vie de tous les jours, ce n'est pas possible. Mais c'est possible de le vivre personnellement. Amen. Vous comprenez bien ? Je prends toujours cette image, vous savez, une averse, une bonne averse, quand il n'y a pas eu de pluie depuis un moment sur votre jardin, vous dites oh, « Merci Seigneur ». Il y en a qui sont plus malins, ils mettent le goutte à goutte. Ce n'est pas juste un petit temps que ça fait du bien. Et puis on attend la prochaine averse. Oh, quand est-ce qu'elle va venir ? Quand est-ce qu'elle va venir ? Non, c'est tous les jours qu'il y a l'eau. Et je dirais que l'image du goutte à goutte, elle est intéressante pour montrer la notion de persévérance et de faire ça au quotidien. Mais avec Dieu, ce n'est pas le goutte à goutte. C'est le gloire en gloire. Amen. C'est puissant. Une goutte. Une goutte, souvenez-vous de ce qu'a dit la femme syrophénicienne. Hein. Une miette. Une miette. Une goutte. Une goutte de la présence de Dieu. Waouh ! C'est un truc de fou. Alors si on est immergé, ouh ! Je pense qu'on a besoin de révolutionner nos représentations et nos manières de faire. Vraiment, je le crois. Et le diable nous attire vers ce qui nous fait du bien, ce qui nous maintient. C'est drôle, hein, qu'il nous attire vers là. Il pourrait nous attirer. Quand il voit qu'il n'arrive pas à nous faire démissionner, il nous attire vers ce qui est bien, ce qui nous maintient. Et là, il crée un espèce d'esprit de satisfaction. Je suis un bon chrétien. Ah, je fais même plusieurs services dans l'église. Hein. Je suis quelqu'un de consacré. Mais mes frères et sœurs, rien ne remplacera ce face-à-face. Amen. Et le premier des bienfaits que je voulais voir avec vous ce matin sur le fait de venir auprès de Dieu, c'est que c'est là que vous serez transformés. Et c'est uniquement là. Ne cherchez pas un autre moyen d'être transformé que celui-là. C'est le seul moyen. Si tu veux changer, si tu te bats avec des péchés et des addictions, avec ton caractère, avec les choses mauvaises qui sont là, si tu te bats avec tout ça, si tu te bats avec les gens qui te veulent du mal, si tu te bats avec ton passé qui te renvoie des choses mauvaises et qui te fait dysfonctionner en permanence, si tu te bats avec tout ça, tu n'as qu'une solution pour être transformé, c'est venir au pied du Seigneur, auprès du Seigneur, au plus près de lui et de le contempler. Essaye de faire ça. Chaque jour, un temps où tu contemples la face de Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. On baisse les yeux ensemble. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Le Seigneur, il parle ce matin. Plusieurs ont besoin de faire le point et de passer à autre chose. Même peut-être après des années de conversion. Le Seigneur, il est en train de te dire ce matin, tu dois passer à autre chose maintenant. tu dois aller plus loin. Toi qui peut-être commences, fais tout, tes tout premiers pas dans la foi, tu as de la chance. Parce que le Seigneur te dit comment faire dès le début. Tu n'auras pas à le découvrir par toi-même. Maintenant, tu sais que si tu veux être transformé, c'est uniquement dans le face-à-face avec Dieu. Ce face-à-face qui a été rendu possible par Jésus-Christ qui a offert sa vie à la croix pour que tu sois pardonné, libéré de tes péchés, libéré de ton passé, libéré de tout ce qui te rend esclave. La Bible dit que maintenant nous ne sommes plus esclaves, mais en Christ, nous sommes fils et filles de Dieu. Amen. Alors, tu es appelé à changer de position ce matin. N'accepte plus d'être esclave. N'accepte plus cet esclavage. Et dis, Seigneur, j'ai une libre entrée dans le sanctuaire. Je veux pleinement en profiter. Je veux pleinement le vivre. Amen. Cesse de courir à droite, à gauche pour rechercher un événement où tu vas pouvoir être touché par le Seigneur, où tu vas pouvoir recevoir des choses particulières. Arrête cette course-là. Mais penche-toi sur ton quotidien et sur ces moments précieux que tu dois passer avec le Seigneur. Je m'adresse aux ados qui sont là. Vous pouvez vivre ça aussi, vous les ados. Dès votre plus jeune âge, vous êtes appelés à réserver des temps pour contempler la gloire de Dieu. Amen. C'est tellement beau de connaître ces choses. Vivons-les, mes frères et sœurs. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci parce que tu agis avec puissance et autorité au milieu de nous. Et maintenant, je laisse ton esprit faire son œuvre dans les cœurs de chacun. Toi, tu connais chacun. Tu connais ce qui est au plus profond de nous-mêmes. Tu connais où nous en sommes, ce dont nous avons besoin. Alors, Seigneur, ma prière, c'est simplement celle-ci. Que personne ne se contente de là où il en est. Mais que tous, Seigneur, nous puissions désirer que l'éclat de la gloire que tu nous confies aille en grandissant, toujours. Merci parce que un jour, nous serons comme toi, parce que nous t'aurons vu tel que tu es. Oh, quelle grâce d'avoir cette chose en vue. Seigneur, merci Père, merci, c'est extraordinaire de te connaître et d'avoir accès à ces choses surnaturelles, merveilleuses pour l'homme. Merci Seigneur, que personne ne se prive de cette libre entrée que tu nous as offerte au prix de ta vie. Merci Seigneur, à toi la gloire. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Béni soit son nom.